Crimes de village et extraits d'histoires naturelles, Jules Renard. Crimes de village. La nuit était venue doucement. Et le père Rollet, les bras croisés, en manche de chemise, en gilet bleu passé à large poche, fumait sa pipe courte et noire sur un petit banc de bois qu'il avait cloué sous l'unique fenêtre de sa chaumière. Il ne pensait pas à grand-chose et écoutait la voix de Crécel, des rainettes qui chantaient dans les buissons d'alentour et troublaient seul le grand silence. Du fumier qu'il avait enclos devant sa porte entre quatre petits murs de pierre sèche, il lui venait un air tout chargé d'odeurs chaudes. Au milieu se dressait un saule mince et maigre, aux feuilles fines comme des lances, dont quelques-unes, desséchées, tourbillonnaient à peine, retenues par un fil. Il était drôlement venu, ce saule, un vieux pieu qu'on avait autrefois planté là et qui avait soudain bourgeonné, fait des branches, à la grande surprise de tous, grâce à l'humidité du sol, trempé de suc. De temps en temps, le père Rollet faisait glisser sa pipe à l'un des coins de sa bouche, tournait la tête vers la fenêtre et répondait par des phrases brèves et ménagées aux questions de sa femme qui mangeait, à l'intérieur, une assiette sur ses genoux, sans lumière, avec un grand bruit de mâchoire. Il parlait peu, mettant de longs intervalles entre leurs phrases, comme pour examiner à leur aise la portée de chacune. Il s'agissait d'une vache que le père Collard leur marchandait. Eux voulaient la vendre 600 francs. Lui n'en donnait que 500, à cause qu'elle gambillait un peu d'une des pattes de derrière. L'entente n'arrivait pas, chacun y mettant l'obstination pointilleuse de paysans endurcis qui font peu d'affaires, mais les font bien. « Faudra céder pour la moitié, » dit la femme. L'homme répondit « Faudra voir. » En ce moment, il distingua au loin une ombre, puis une autre, plus petite, qui se détachait des ténèbres épaisses. « C'est vous, Collard ?» Une voix cria. « C'est nous !» Le père Collard avait des sabots blancs, à peine équarris, une casquette en peau de loutre, un manche de fouet sans fouet à la main, l'air finaud et avare. La mère Collard, courte et bavarde, portait un grand cabas, toujours plein, qui ne la quittait pas dans ses plus petites courses et qui lui battait lourdement les flancs. Le père Rollet les fit entrer. « Eh, ben, êtes-vous décidé ?» Pour sûr que non, qu'il ne l'était pas décidé. Il devait en démordre, sans ça, rien. La mère Rollet alluma une bougie toute neuve, dans un lourd chandelier de fer. Et on s'assit, les femmes sur le rebord en brique de la cheminée, les hommes sur l'arche au pain frottée luisante, les mains sur les genoux. On causa d'abord de choses et d'autres, puis, au bout d'un assez long silence que scandait pesamment le tic-tac de la vieille horloge, les deux hommes reprirent leur débat à propos de la vache. Ils parlotèrent longuement, sans parvenir à se convaincre. Tous les deux donnaient obstinément leur raison et ne s'écoutaient ni l'un ni l'autre. Les femmes demeuraient silencieuses, très intéressées, les yeux fixés sur eux et le menton dans le creux des mains. Rollet proposa « Si on allait à l'auberge, ça irait peut-être mieux. » Collard accepta, ils sortirent. Les femmes leur crièrent de ne pas rester trop longtemps, la Collard plus fort que l'autre, parce qu'ils demeuraient tout au bout du village. Elles restèrent seules. « Elles se comptèrent tous les commérages du jour, passèrent en revue les voisins, les parents, sans excepter leur mari qu'elles s'enviaient réciproquement par politesse. On pourrait s'arranger, dit la Rollet. Et cette idée inattendue qu'elle n'aurait qu'à demander pour avoir un autre homme nouveau, tout neuf, partout, dans leur lit, sur leur dos, les agita d'un rire inextinguible, qu'elle savourait en larmes. Elle revenait sans cesse à ce sujet. Quand elles l'eurent épuisé, la conversation languit. Il y eut une pause, coupée de petits hoquets intermittents, quand l'une d'elles trouvait plus drôle cette idée usée qui achevait de se dérouler en son esprit, comme l'écho continue la voix, puis rien. La bougie pâle les éclairait faiblement, posant, çà et là, un reflet capricieux sur le poli des meubles ou le brillant des carreaux rouges. Les deux femmes courbaient la tête, presque entre leurs genoux, absorbées. La Rollet dit tout à coup « Vous vous ennuyez, pas vrai ?» La Collard protesta, mais comme elle regardait à chaque instant du côté de la porte, se levant à demi quand elle entendait un bruit de pas, le cabas au bras, toute prête à partir, la Rollet insista. « Si, je vois bien que vous vous ennuyez. » La Collard ne se défendit plus et répondit naïvement « C'est toujours comme ça quand je suis chez les autres. »« C'est bien naturel, » dit la Rollet. D'ailleurs, elle bâillait aussi et, malgré elle, tournait ses paupières lourdes vers l'énorme lit qui faisait dans un coin une masse d'un vert sombre, si haut qu'il fallait en y montant se plier en deux pour ne pas se cogner la tête aux solives enfumées. Elle dit tout à coup « Ma foi, tant pis pour eux. Je vais me coucher. Vous permettez ?»« Ça ne me fait rien, » dit la Collard. La Rollet en un instant fut en chemise, grimpa sur la chaise, puis sur le lit, montrant ses jambes maigres et battantes. La Collard plaisanta, mais au fond, elle commençait à se désespérer. Son homme n'arrivait pas. Elle répétait, impatiente, « Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'ils font donc ?»« Si j'étais vous, » dit la Rollet, qui nouait son mouchoir à carreaux autour de sa tête, « je ferais comme moi. Ils ne reviendront pas, bien sûr, ils dorment sur les tables de l'auberge. Je connais mon homme, il aura entraîné le vôtre à boire. »« C'est plutôt le mien qui aura entraîné le vôtre. » »« À telle enseigne qu'ils sont tous les mêmes. Allez, venez donc !» La Collard riait, refusait. « Si vous avez peur qu'il revienne, ne quittez pas votre jupe, vous serez tout de suite rhabillée. » La Collard pesait les paroles. « C'est vrai qu'ils sont longs. Je ne peux pourtant pas passer la nuit comme ça, sur une chaise. » Et brusquement, elle posa son cabas, ses savates, son caraco, noua son bonnet plus serré, escalada le lit et se glissa du côté de la ruelle. « J'aime mieux le coin, » dit-elle. « Ah, qu'à cela ne tienne, je vous le cède. » Elle riait de bon cœur, toutes les deux ragaillardies, et le bavardage reprit sur la dame blanche, sur les revenants. La Rollet n'y croyait pas, elle avait bien plus peur des puces. Heureusement, elle connaissait le moyen de s'en débarrasser, comme les renards. Les renards. « Comment, vous ne savez pas ?» dit la Rollet d'une voix flûtée. « Ah, des malins! Ils attendent qu'il y en ait tout plein. Alors ils roulent en boule un paquet d'herbes sèches qu'ils se fourrent dans la gueule, puis ils vont à la rivière et y trempent avec précaution le bout de leur queue. Les puces ont peur de l'eau, comme les poules. Elles remontent la queue, prenant les autres sur leur chemin. Le renard enfonce de plus en plus lentement. Les puces remontent, arrivent à la tête, à la gueule, puis... ne trouvant plus de sec que la boule d'herbe, s'y mettent toutes. Le renard les lâche dans l'eau et se sauve. C'était gentiment imaginé, comme on voit. La Collard s'amusait, incrédule, cherchant un moyen de l'attraper à son tour. Elle la vit subitement s'endormir de ce sommeil lourd où se dissolvent toutes les fatigues du jour qui ferment les yeux comme une plaque de métal. Elle avait trouvé. elle tira tout le lourd édredon à elle, le roula, le tassa sous ses draps à sa place, puis elle se coula dans la ruelle. La Rollée dormait sur le dos, la bouche entr'ouverte par un souffle léger, les bras tendus à ses côtés comme une statue ridée couchée sur un tombeau. Au-dessus de sa tête se penchait un Christ noir, une vieille gravure, un grand ange à genoux en prière dont la tête disparaissait presque entière entre les deux ailes démesurées comme dans un béguin de religieuse. En un coin de mur, un grillon poussait obstinément son cri-cri mélancolique. Du fond de son sommeil, elle sentit sur sa poitrine de petites pressions brusques, comme si le drap du lit eût été tiré à coups secs par une main invisible. Elle s'éveilla, dressa la tête, écouta, crut qu'elle s'était trompée et reposa sa tête sur l'oreiller. De nouveau, la même impression eut lieu. Cette fois, elle eut peur et donna des coups de poing dans la ruelle sur l'édredon. « Il y a quelqu'un ! Réveillez-vous !» Rien ne bougea. « Mais réveillez-vous donc, je vous dis qu'il y a quelqu'un !» Cependant, on tiraillait encore le drap. Elle fit un effort pour secouer la paralysie de la peur qui commençait à la gagner et se laissa glisser au bas du lit. Elle sentit quelque chose qui se levait le long de ses jambes. Dans le mouvement qu'elle fit pour se soutenir, sa main rencontra le chandelier de fer. Elle le prit, le leva, énergique, sur sa tête et l'abattit de toutes ses forces à plusieurs reprises, tellement hors d'elle qu'elle n'entendit pas une voix sourde, la voix de la colère crier. « Mais c'est moi ! Êtes-vous folle ? C'est moi !» Et lourdement, un corps s'affaissa. À tâtons, la Rollée trouva un bout de bougie cassée, l'alluma et vit la colère étendue, le crâne ouvert. Un mince filet rouge serpentait dans les interstices des carreaux. Comme dans les vrais crimes, l'horloge sonna minuit. En ce moment, les deux hommes rentraient, un peu gris. Rollée disait, en paroles têtues, « Non, c'est pas possible, une vache qui a les yeux noirs !» Ils s'arrêtèrent, les bras écartés, glacés. La Rollée leur dit tout, en sanglots. Rollée se pencha sur le corps. « Elle est ben morte !» dit-il. Collard répétait sans colère. « Dieu, c'est-il possible, ma pauvre femme ?» Et tous les trois restaient autour du cadavre, le corps devenu mou et la volonté rendue lâche, plus par l'étonnement que par la douleur. Les hommes, les yeux secs, la femme s'arrêtant de pleurer du moment qu'on prenait l'affaire ainsi. Ils ne pouvaient que redire. « Qu'est-ce que j'allons faire à cette heure ?» L'emporter chez toi, Collard. » Rollée alla chercher une brouette qui ne servait plus et dont il enleva la roue, le dos et les ailes, ce qui en fit un brancard. On y coucha la morte. La Rollée lui lava le visage, puis elle choisit et prêta un vieux châle pour l'envelopper à cause des fraîcheurs. Les hommes se placèrent aux deux extrémités du brancard. Ils allaient l'enlever quand Rollée, par-dessus la morte, frappa l'épaule de Collard. « Dis donc, tu diras rien ?» Collard répondit « Dame, ça me ferait des affaires. » Rollet réfléchissait, très perplexe. Il y aurait une enquête, bien sûr, on l'appellerait au tribunal. Il eut une idée. « Je te la laisse à 550. » Collard protesta. « Je dis pas ça pour la vache. » Rollet reprit. « 530. » Collard se fâcha. « On n'est point brut !» Rollet se baissa pour reprendre les brancards. « Puisque tu veux de l'escandale, n'en parlons plus !» Collard se grattait les cheveux. « Tu croirais que c'est pour la vache !» Ils disaient cela, tous les deux, posément, prêts à reprendre la discussion, Rollet les dents un peu serrées comme si les paroles lui coûtaient à sortir, Collard, le visage tendu aux offres, l'œil brillant quand l'autre baissait les prix. Dans un rayon de lune, le verre de l'horloge avait l'air d'un œil immense, fixé sur eux. « Autant en finir, prends-la pour 500 !» Collard avança la main. « C'est dit. Je dirais qu'elle s'est tuée en tombant sur un pavé. » Et ils se tapèrent fortement dans les mains, comme pour les marchés, au-dessus de la morte qui les regardait avec des yeux blancs. Ils soulevèrent le brancard et sortirent. En plein air, la rosée qui tombait les fit frissonner et les mouilla de compassion. « Pauvre, en venant ce soir bâlement tous les deux, je l'aurais jamais cru. » « Ça, c'est vrai, pauvre bonne !» dit Rollet. Et ils s'enfoncèrent dans les ténèbres. Au commencement, pour se mettre au pas, ils criaient « Une, deux, une, deux !» La morte se balançait entre eux. Et quand ils faiblissaient, l'une de ses jambes pendait, rayait le sol d'un air brusque. La Rollet cria à son tour « Reviendras-tu bientôt ?» Il répondit « Je ne sais pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça dépend. » Elle les suivit des yeux. Quand ils eurent disparu, elle murmura « 500 francs une vache comme ça, qui a les yeux noirs, c'est pas cher. » Après une pause, elle acheva « C'est pour rien. » Et elle rentra dans la chaumière afin de laver le sol et de remettre un peu d'ordre. Le chien. On ne peut mettre pointu dehors, par ce temps, et l'aigre sifflet du vent sous la porte l'oblige même à quitter le paillasson. Il cherche mieux et glisse sa bonne tête entre nos sièges. Mais nous nous penchons, serrés, coude à coude sur le feu, et je donne une claque à pointu. Mon père le repousse du pied, maman lui dit des injures, ma sœur lui offre un verre vide. Pointu éternue et va voir à la cuisine si nous y sommes. Puis il revient, force notre cercle au risque d'être étranglé par les genoux, et le voilà dans un coin de la cheminée. Après avoir longtemps tourné sur place, il s'assit près du chenet et ne bouge plus. Il regarde ses maîtres d'un œil si doux qu'on le tolère. Seulement, le chenet presque rouge et les cendres écartées lui brûlent le derrière. Il reste tout de même. On lui rouvre un passage. « Allons, file ! Es-tu bête ?» Mais il s'obstine. À l'heure où les dents des chiens perdus crissent de froid, pointu, au chaud, poils roussis, fesses cuites, se retient de hurler et rit jaune avec des larmes plein les yeux. Dédé chez mort. C'était le petit griffon de Mademoiselle, et nous l'aimions tous. Il connaissait l'art de se pelotonner n'importe où, et même sur une table, il semblait dormir au creux d'un nid. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable, et il ne nous caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue, finement. Il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien un rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grogner de la gorge, avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment qu'à nos cris de joie, nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, Mademoiselle lui disait « Si tu parlais donc un tout petit peu !» Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien les gestes, il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que Mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement, et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner, il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dédé se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, happa cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta et s'enfuit. Ah, si Mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre à la gorge, le rouler et l'étouffer dans la poussière. Dédé guérit de la blessure des crocs, mais il lui resta aux reins une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci, et à peine rentré, il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble et Mademoiselle jetait son cri d'alarme monotone. « Une éponge, de l'eau, du soufre !» On se mettait en colère, on grondait des déchets d'une voix terrible et on le battait avec des gestes violents qui ne le touchaient pas. Son regard fin nous répondait « Je sais bien, mais que faire ?» Il restait gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait comme s'il avait sur l'échine les dents du chien de braconnier. Et puis, son odeur finissait par inspirer des mots aux amis les moins spirituels. Le cœur même de Mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer des déchets. C'était très simple. On fait une incision dans une bouchée de viande. On y met deux poudres. Une de cyanure de potassium, l'autre d'acide tartrique. On recoud avec du fil très fin. On donne une première boulette inoffensive pour rire, puis la vraie. L'estomac digère et les deux poudres, par réaction, forment de l'acide cyanhydrique ou prussique qui foudroie l'animal. Je ne veux plus me rappeler qui de nous administra les boulettes. Dédesh attend. Couché, bien sage dans sa corbeille, et nous aussi nous attendons, nous écoutons de la pièce à côté, affalés sur des sièges, comme pris d'une immense fatigue. Un quart d'heure passe, une demi-heure. Quelqu'un dit doucement « Je vais voir ». Encore 5 minutes. Nos oreilles bourdonnent. Ne croirait-on pas qu'un chien hurle quelque part, au loin ? Le chien de braconnier ? Enfin, le plus courageux de nous disparaît, revient dire d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. C'est fini. Mademoiselle laisse tomber sa tête sur le lit et sanglote. Elle cède aux sanglots, comme on a le fou rire quand on ne voulait que rire. Elle répète, la figure dans l'oreiller, « Non, non, je ne boirai pas mon chocolat ce matin !» À la maman qui lui parle de Marie, elle murmure qu'elle restera vieille fille. Les autres attrapent à temps leurs larmes. Il semble qu'ils pleureraient tous et que chaque nouvelle source ferait jaillir une source voisine. Ils disent à Mademoiselle « Tu es bête, ce n'est rien. » « Pourquoi rien ? » c'était de la vie, et nous ne pouvons pas savoir jusqu'où allait celle que nous venons de supprimer. Par pudeur, pour ne pas avouer que la mort d'un petit chien nous bouleverse, nous songeons aux êtres humains déjà perdus, à ceux qu'on pourrait perdre, à tout ce qui est mystérieux, incompréhensible, noir et glacé. Le coupable se dit « Je viens de commettre un assassinat par trahison. » Il se lève et ose regarder sa victime. Plus tard, nous saurons qu'il a baisé le petit crâne chaud et doux de Dédèche. Ouvre-t-il ses yeux ? Oui, mais des yeux vitreux qui ne voient plus. Il est mort sans souffrir ? Oh, j'en suis sûre. Sans se débattre ? Il a seulement allongé sa patte au bord de la corbeille, comme s'il nous tendait encore une petite main.
J'ai un chien gentil mais sale, qui a les poils mouillés partout. J'ai un chien qui a les poils mouillés partout, et c'est pas tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange, il s'en met plein le menton, comme un cochon. Mais je l'aime quand même, je l'aime, mais je l'aime, je l'aime. Quand je le promène au lac, il patauge dans la boue. Quand je le promène au lac, il patauge dans la boue, et c'est pas tout. Il va renifler les crottes, et ça ne sent pas très bon. Ben, il va et ça ne sent pas très bon, comme un cochon. Mais je l'aime, je l'aime, mais je l'aime. Je l'aime. Quand il vient me faire la fête, il me lèche dans le cou. Il me lèche dans le cou. Il me lèche dans le cou. Et c'est pas tout. Il bave sur ma chemise et puis sur mon pantalon. Il bave sur ma chemise et puis sur mon pantalon. Et puis sur mon pantalon, comme un cochon. Mais je l'aime quand même, je l'aime, mais je l'aime quand même, je l'aime.